Quart d'heure corrézien, l'émission d'information hebdomadaire de Bram FM, RGB et RCF Limousin.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans le 41e numéro du quart d'heure corrézien. Je suis Olivier Serac et durant le prochain quart d'heure que nous allons passer ensemble, je vais vous donner une excuse pour expliquer votre retard à votre prochain rendez-vous. Tout simplement parce que nous vous expliquerons pourquoi le département de la Corrèze souhaite dévier la D901 au niveau de Varès. Un projet qui provoque des inquiétudes, vous l'entendrez. Nous serons aussi avec les Girls in Rose, un collectif de femmes corréziennes qui se mobilisent pour récolter de l'argent pour la lutte contre le cancer. Pour ça, elles organisent une journée d'animation ce samedi 20 janvier. Ce sera au château de Castelnovel à Varès. Enfin, le travail ou la recherche de travail occupe une grande partie de notre quotidien. Mais quel sens donne-t-il à nos vies? Des chercheurs en psychologie se posent la question. Une conférence à ce sujet était d'ailleurs proposée cette semaine à Brive. Nous serons avec l'un des conférenciers à la fin de ce numéro. Le quart d'heure corrézien, vous avez le menu. C'est parti. C'est un dossier vieux de plus de 20 ans qui ressort cette année, celui de la déviation de la départementale 901 au niveau de Varès. Ici, sur cette route entre Brive et Objat, passe jusqu'à 14 000 véhicules par jour. 10% de ces véhicules sont des camions qui traversent la commune de Varès et dont aimerait se débarrasser une partie des habitants du bourg de Varès. Ce n'est pas le cas des commerçants de la commune, à l'instar de Stéphanie Brionneau. Elle représente les commerçants de Varès.
Est-ce qu'elle a une véritable utilité publique ? D'un point de vue économique, ce sont des sommes quand même qui ne sont pas négligeables. Est-ce que véritablement le département n'a pas d'autres projets peut-être plus importants à mettre en avant qu'une déviation qui va permettre de gagner 3 minutes pour aller à Objat et mettre à mal tous les commerces de proximité de la ville de Varès?
Claude, lui, habite à Saint-Robert et lorsqu'il descend à Brive, il doit s'engager sur cette fameuse D901 très fréquenté et aujourd'hui, il perd du temps.
Pour éviter le flux de poids lourds qui est vraiment très dangereux pour tout le monde, il faut faire une déviation. Quand je traverse pour aller à Brive, je passe par Varès. Quand il y a des camions et des trucs comme ça, ça bouge de partout, c'est trop dangereux. Alors que si les poids lourds sont déviés, ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide pour tout le monde.
Et l'homme l'assure, la déviation est aussi importante pour les services de secours.
Des transports sanitaires, donc les ambulances ou les services de pompiers d'incendie, elles se retrouvent coincées dans le bourg de Varès. Le temps étant très imparti pour eux, la déviation, effectivement, sera très bénéfique.
Sauf que selon les commerçants, si ralentissement il y a à Varès, ce n'est pas forcément la faute de la fréquentation de la route, assure Stéphanie Brionneau.
Il y a des lieux où s'insérer dans la circulation, c'est compliqué, mais il y a aussi des explications. Des gens qui sont un petit peu feignants et qui n'ont pas envie d'aller se stationner et qui se stationnent en fait sur la rue. Donc ça gêne énormément la circulation.
C'est donc pour prendre en compte l'ensemble des avis que le département de la Corrèze, qui a la compétence et la charge de la gestion des routes départementales, a ouvert une concertation publique jusqu'au 16 février prochain. L'objectif est clair pour Pascal Coste.
Fluidifier le trafic sur cette 901, qui est la route la plus passante de la Corrèze. C'est un projet qui avait été abandonné pour des raisons financières par le département du temps de François Hollande. Aujourd'hui, on investit sur route 2030 avec une capacité à pouvoir la faire. Donc on la propose à la consultation du public. On va écouter ce qu'ils ont à nous dire. On verra si les propositions qu'on fait sont valables. Si c'est le cas, on arrêtera un fuseau, on ira au bout. Et puis l'enquête publique dira si on peut la réaliser ou pas. En tout cas, c'est aujourd'hui à la concertation.
Pas moins de 6 tracés différents sont proposés. Certains de ces tracés déviraient la circulation vers Saint-Viance. Des options que ne souhaitent pas les habitants de la commune. Un problème que comprend le président de l'exécutif corrézien.
Personne ne veut le trafic de la 901. C'est comme tout. Personne ne veut d'éoliennes, personne ne veut de centrales nucléaires, personne ne veut rien. Sauf que tout le monde en a besoin au quotidien et d'accord lorsque c'est loin de chez soi. Donc là, nous, on a l'intérêt général. Il y aura pour cela des procédures de déclaration d'utilité publique. C'est pour ça qu'on fait la concertation. Devront s'exprimer ceux qui sont pour aussi, parce qu'on ne les entend jamais. Ceux qui sont contre avec tous leurs arguments. Et l'intérêt général primera. Si les moins l'emportent sur les plus, eh bien, on saura rectifier le projet, voire l'abandonner s'il le faut. Et si les plus et l'intérêt général dictent de le garder, eh bien sûr, on le fera parce qu'aujourd'hui, on en a les moyens.
Au cours de la réunion publique organisée mardi dernier à Varès, certains participants soulevaient qu'à l'heure de la transition écologique, la construction d'une nouvelle route pouvait être une mauvaise idée. Mais là encore, Pascal Coste avance un autre argument, l'intérêt général.
On soutient toutes les initiatives de faire baisser le trafic. En même temps, on n'est pas dans un secteur qui est en déflation. On a plutôt un maintien de la population, une attractivité. Et donc nous, on ne veut pas non plus un système décroissant. Et donc, si demain le territoire reste dynamique, même si on a une baisse des flux, il y aura peut-être autant de voitures sur la route.
À l'issue de la concertation, dans un mois donc, un bilan sera tiré qui permettra aussi aux élus de voter pour l'un des 6 tracés aujourd'hui proposés. Derrière, de nouvelles études seront de fait déclenchées.
Derrière la concertation, on étudie un fuseau. Derrière le fuseau, on regardera des études techniques pendant plus d'un an, un an et demi. De là, on fera un dossier de déclaration d'utilité publique. Une concertation, et là, le commissaire enquêteur et le tribunal nommera pour pouvoir avoir quelqu'un d'assermenté pour faire le résultat, donnera son avis au bout, et c'est de là qu'on saura si on a l'autorisation de la réaliser vraiment ou pas.
Et à l'issue de toutes les enquêtes environnementales et autres enquêtes publiques, les premiers coups de pelle mécaniques ne pourraient être donnés que d'ici 2027. Parler du cancer autrement que durant les périodes consacrées que sont octobre rose ou encore mars bleu, des mois dédiés à la sensibilisation pour le dépistage de différents cancers, c'est ce qu'a choisi de faire le collectif Girls in Rose, un collectif fondé par une Corrézienne, Pauline Ossard.
On est un groupe de 13 femmes qui se sont dit pourquoi pas faire quelque chose de plus que de mettre un petit nœud sur sa photo Facebook pour aider la Ligue contre le cancer. Et donc on s'est lancé il y a 2 ans maintenant, en 2022, pour faire un premier calendrier dont tous les bénéfices revenaient à la Ligue.
Autant dire que l'objectif du collectif est clair.
Notre mission, c'est de récolter de l'argent pour la Ligue contre le cancer, pour qu'eux puissent ensuite aider les malades et leurs familles. Donc, on met tout en place pour que chacun puisse, à son niveau, participer. Donc, il n'y a aucune obligation. On va vous proposer plein de choses qui nous aideront pour que, collectivement, on puisse donner ces fonds-là à la Ligue.
Des fonds essentiels afin de financer des soins supports, des soins qui vont au-delà de l'aspect purement médical.
Il va y avoir, par exemple, de la réflexologie, il va y avoir de la socio-coiffure, de la socio-esthétique, il va y avoir les accompagnements psychologiques, ça peut être des accompagnements financiers. Tous ces accompagnements-là pour aider au mieux les malades à traverser cette phase très difficile.
C'est donc pour ça qu'en plus du calendrier 2024, le collectif organise ce samedi 20 janvier, dans l'écrin du château de Castelnouvelle de Varès, une journée artistique et solidaire.
On ouvre les portes au grand public de 10h à 17h pour une journée flash tattoo. Il faut savoir que les Girls in Rose, on est un petit peu rock'n'roll et qu'on aime bien les mélanges de genres. Et donc, on invite des tatoueurs. On a 5 tatoueurs et un perceur qui seront là pour vous accueillir, pour accueillir tout le monde. Et 50% de leurs bénéfices sera reversé à la Ligue. On aura également une exposition artistique de Inox, Thomas Buissoni, qui est graffeur. Et on aura une présentation des soins supports de la Ligue que l'on finance grâce à notre action Girls in Rose.
Et parmi ces 4 tatoueurs, il y aura Lisa, alias Mama Inc. 5, une tatoueuse installée à Alassac, où elle a sa boutique Le Sang d'Encre. Samedi, elle proposera des flashs, c'est-à-dire de petites pièces à tatouer durant la journée.
Toute la journée, de 10h à 17h, des flashs tatou, donc ils ont gratté plusieurs petits dessins, qui proposeront chacun sur leur table pour pouvoir être tatoués ce jour-là. Sous les aiguilles de toute l'équipe, ils choisissent selon le coup de cœur qu'il y a sur les tables. Et 50% des tatouages sera reversé à la Ligue contre le cancer.
Dans son quotidien, Lisa rencontre différentes personnes qui viennent avec leurs histoires. Souvent, derrière ces histoires de vie, il y a une envie.
Il y a des gens qui ont besoin de couvrir des cicatrices, la cicatrice qu'a laissé le cathéter ou l'ablation qu'il y a dû y avoir, etc., etc. Donc on fait des pics cicatriciels assez lointaines, hein, parce qu'il faut que la plaie soit bien bien cicatrisée, donc c'est quelques années après. C'est un pansement thérapeutique, quelque chose, une balafre qu'on a envie d'oublier.
Et pour certains, les tatouages permettent d'aller encore de l'avant après avoir fait connaissance avec le cancer.
C'est choisir ce qu'on veut qui ressorte de ce moment difficile. Je croise quelqu'un dans la rue, il est là en décolleté, machin, on voit cette cicatrice, on sait ce qu'il a vécu, on n'a pas eu le choix de le vivre. Par contre, on a le choix de faire ce qu'on en veut après. Ce qu'on va poser sur cette cicatrice, c'est ce qu'on a envie d'être et envie de montrer par rapport à cette étape de notre vie qui s'est passée.
D'où l'intérêt de bien choisir aussi son tatoueur ou sa tatoueuse afin de bien faire comprendre l'enjeu du message que l'on souhaite faire passer.
Selon la plaie, la cicatrice, ce qu'on a enlevé des fois, on a besoin de reprendre possession de notre corps, de se sentir beau, de se sentir fort. C'est tout ça le tatouage aussi, c'est reprendre possession de soi, de son corps qu'on a mutilé, de la douleur qu'on a vécue. On a besoin d'avoir mal aussi. Et en même temps, c'est comme si on reprenait ce qu'on nous avait pris.
Comptez pour cette journée flash de 80 à 250 euros le tatouage. La moitié de ce prix sera évidemment reversée à la Ligue contre le cancer. Sens de la vie, sens du travail, que nous apprennent les études? C'est à cette question que Jean-Luc Bernot, professeur en psychologie de l'orientation et du conseil au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers de Paris, tentait de répondre cette semaine au cours d'une conférence donnée ici à Brive. Pour lui, il est une évidence, notre rapport au travail a évolué, surtout en ce 21e siècle ultra connecté.
Il y a des modifications dans le rapport au travail, en particulier pour les jeunes générations, et ça s'est accéléré à la suite de la pandémie du Covid-19. Il y a une réorganisation des priorités de vie, peut-être avec une prise de conscience que le travail ne satisfait pas toutes les sphères de vie, hein. Il y a d'autres façons de s'épanouir dans l'existence et de tisser des liens. Je pense qu'on est aussi, alors en particulier en France, dans l'Occident et en France, on a quand même quelques privilèges et quelques facilités économiques. Donc on a des possibilités d'accès à l'information et des possibilités de réalisation de soi qui sont sans doute beaucoup plus nombreuses qu'il y a 50 ans ou un siècle. Donc tout cela, ça amène à une reconfiguration des paysages, des souhaits et puis peut-être aussi une certaine forme de volonté de rencontrer un certain bonheur, parce qu'on sait que l'existence ne dure pas une éternité.
Un bonheur au travail et dans la vie qui peut parfois être montré comme une injonction et dont il faut, selon Jean-Luc Bernot, parfois se méfier.
On sent parfois pointer l'émergence d'une norme du bonheur qui est un peu artificielle et un peu téléphonée, si je puis dire. L'être humain, il n'est pas simplement préprogrammé pour vivre du bonheur et pour se réaliser. La mode du développement personnel, c'est aussi une façon de s'exprimer qui rencontre ses limites, qui ne questionne pas assez le vivre ensemble, qui ne définit pas suffisamment quel est le sens profond de l'existence, et puis qui est aussi très auto-centré. Le bonheur, c'est quand même une recentration sur soi, sur les siens, sur ses propres émotions, ce qui peut avoir certains inconvénients. Oui, elle répond à certaines fonctions, mais elle rencontre également un certain nombre de limites.
À l'heure où Parcoursup, cette fameuse plateforme sur laquelle les lycéens doivent inscrire leurs vœux pour leur avenir étudiantin, plateforme qui donne aussi beaucoup de sueur froide autant aux adolescents qu'à leurs parents, Parcoursup vient d'ouvrir donc, Jean-Luc Bernot, lui, tente de rassurer, parce que ce n'est pas parce qu'on a choisi une filière particulière que l'on est obligé de la suivre jusqu'au bout de sa vie professionnelle.
Aujourd'hui, on vit quand même dans une période où non seulement on a le droit à l'erreur, mais l'erreur peut être aussi vertueuse, c'est une façon aussi de se construire, se situer. Donc on peut tout à fait arrêter un cursus, s'engager dans une autre voie, se reconvertir à 50 ans, 60 ans. Il n'y a absolument aucune limite. Ce qui est important, c'est d'arriver à se construire à travers des expériences et donc ne pas hésiter à s'engager dans la vie, à prendre des risques, à s'essayer, même si ce n'est pas toujours idéal. Ça nous permet d'avancer et puis à un moment donné, prendre un temps de réflexion en étant accompagné, si on le souhaite ou pas, si ce n'est pas le bon moment. Et ces temps de réflexion sont très importants pour justement faire ensuite des choix éclairés qui tiennent compte des expériences qu'on a pu vivre dans le passé.
Et surtout, l'homme affirme que l'on peut retourner ses échecs pour en faire une force.
L'échec est vertueux, c'est qu'on a un droit à l'erreur et que l'échec nous aide à nous construire, à nous situer, à avancer, à comprendre qui nous sommes vraiment. La vie est ponctuée d'échecs, de réussite aussi. Et c'est finalement, c'est pas tant le fait de vivre un échec ou un moment difficile. La question fondamentale, c'est qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on l'analyse et comment on rebondit pour construire son futur.
Alors face à un échec, on se pose, on réfléchit, on analyse et sans paniquer, sans en vouloir à la terre entière non plus, on peut rebondir. C'est la fin de ce 41e numéro du quart d'heure corrézien. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau magazine, toujours consacré à l'actualité corrézienne. En attendant, je vous souhaite de passer de très bons moments sur nos ondes en Corrèze ou ailleurs.
Vous venez d'entendre le quart d'heure corrézien. L'émission est à retrouver sur nos sites bramfm.com, rcf.fr et radiograndbrive.fr.